Il n'y a pas plus grand amour que celui de donner sa vie pour les autres. Tu l'as fait, Seigneur. Tu l'as fait, tu l'as fait. Tu l'as fait, Seigneur. Je célèbre cet amour de Jésus. Je célèbre l'amour de Jésus. Car jamais quelqu'un d'autre n'a aimé comme toi. Qu'est-ce que j'ai offert, oh Dieu? Qu'est-ce que j'ai donné, Seigneur? Qu'est-ce que ma famille avait pour que tu m'aimes? Pour que tu m'aimes, Seigneur, pour que tu m'aimes, oh Dieu. J'ai seulement constaté que les faveurs de Dieu m'accompagnent. J'ai seulement remarqué que la vie de Dieu m'accompagne. J'ai seulement remarqué qu'il y a une dose d'amour que je n'ai jamais connue dans ce monde, que j'ai reçu en m'approchant de toi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Y a-t-il un homme qui peut déclarer à Dieu tout son amour? Fais-le, n'hésite pas. Fais-le, n'hésite pas, n'hésite surtout pas. Déclare-le, déclare-lui tout ton amour. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Dis-lui, Seigneur, je t'aime. Je te déclare mon amour. Je te déclare mon amour. Il n'a rien retenu pour lui, mais il a tout donné pour nous avoir. Il a tout donné pour nous aimer, pour nous exprimer la profondeur de son amour. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Jésus soit béni. Il est vrai que nos mots ne suffiront pas, Seigneur, pour dire tout l'amour que nous avons pour toi. Aucune parole, Seigneur, au Dieu venant de l'humain, ne saurait exprimer avec exactitude cet amour que nous ressentons au-dedans de nous. Tout celui qui t'a rencontré, Seigneur, manquera des mots pour dire de façon exacte cet amour. Et tout ce que nous disons ce matin, Seigneur, c'est merci. Merci pour la patience. Merci, ô Dieu, pour la miséricorde. Merci, ô Dieu, pour le salut. Merci pour, ô Dieu, ton amour combien infini. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Tu as été patient envers nous. Tu nous as supportés, Seigneur. Tu aurais pu nous écraser, ô Dieu. Mais là, Seigneur, tu as été patient envers nous. Nous te disons merci. C'est pourquoi nous t'offrons nos applaudissements, nos acclamations, nos cris de joie, notre célébration. Nous reconnaissons ton amour. Car il n'y a pas plus grand amour que celui-là. Il n'y a pas plus grand amour que celui que Jésus a offert pour nous sur la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Je disais shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Que la paix du Seigneur vous accompagne tout au long de cette nouvelle année. Que vous soyez bénis et que vos familles soient bénies. Que vous fleurissiez, que vous portiez des fruits. Et des fruits qui demeurent. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je rends grâce à Dieu pour ces jours, pour ces premiers dimanches de l'année 2025. Alors qu'il nous ouvre les portes de son palais, nous lui sommes infiniment reconnaissants. Je suis également reconnaissant au pasteur Maurice pour la confiance et qu'il a réitéré à notre modeste personne pour que ce matin, que nous intervenions dans ces cultes devant le peuple de Dieu sous sa responsabilité, que le Dieu de toute miséricorde se souvienne de lui et qu'il le délivre de toutes ses souffrances. Je suis heureux de partager ces cultes avec vous, vous qui êtes ici et vous qui nous suivez au loin, et je puis vous dire que Dieu est bon. Et il est bon vraiment au milieu de nous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et lui dire « Je suis content que tu sois assis à mes côtés. Je suis content de t'avoir pour voisin. Je suis content que tu sois mon voisin ce matin. Que la grâce de Dieu soit dans les voisinages. Partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit dans votre voisinage. Amen. » Quelqu'un m'avait dit un jour, si tu vois autour de toi les gens voyager, tout ça c'est que les voyages dans les voisinages. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Être agréable à Dieu. Nous sommes toujours dans notre série d'Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Curieusement, ce fut un 5 janvier 2020 que nous avions introduit cet enseignement. Et nous sommes aujourd'hui le 5 janvier 2025. Ebenezer fête ses 5 ans. Joyeux anniversaire à Ebenezer. Que le Seigneur soit béni. Être agréable à Dieu. Nous lirons ce matin dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 26. 1 Samuel chapitre 2, le verset 26. Et nous lirons aussi Hébreux chapitre 11, le verset 6. 1 Samuel chapitre 2, le verset 26, et Hébreux chapitre 11, le verset 6. Si nous avons trouvé, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, merci pour ce jour. Et merci, ô Dieu, pour ta présence parmi nous. Tu es là, Seigneur, et tu es venu, ô Dieu, dans ces assises afin, Seigneur, de nous communiquer ta pensée. Et nos cœurs préparés, Seigneur, nous voulons, ô Dieu, entendre tout ce que tu as à nous dire, parce que la vie est dans ta parole. Ce matin, Seigneur, fais vivre une âme, fais vivre un peuple, fais vivre un homme, une femme, alors que, Seigneur, ô Dieu, nous sommes réfugiés sous tes ailes. Nous voulons être un peuple agréable à toi et à toi seul, car notre présence ne suffit pas. Notre présence dans la maison de Dieu ne suffit pas, parce qu'on peut être dans la maison de Dieu et être désagréable à Dieu. Et notre prière ce matin est que tu nous rendes agréables à toi. Bénis ta parole, qu'elle trouve le chemin de nos cœurs et qu'elle nous instruise. Au nom de Jésus, amen. Nous accueillons la parole de Dieu par nos applaudissements, nos acclamations, nos cris de joie. Nous célébrons Dieu pour sa parole. En ce début d'année, nous accueillons la parole qui restaure, la parole qui guérit. La parole qui a fermé. Il n'y a pas une autre parole plus puissante que la parole de Jésus. Alléluia. La grande question que nous sommes posées dans ces chapitres, sinon dans cette section de Ebenezer, est celle de savoir comment être agréable à Dieu. Comment un homme peut être agréable à Dieu? Ce n'est pas parce qu'il vient chaque jour dans la maison de Dieu qu'il peut être agréable à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il donne plus que tout le monde lors des offrandes ou des collectes qu'il peut être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est plaire à Dieu. Et là, nous avons interrogé deux personnages bibliques. Le premier personnage que nous avons interrogé pour nous donner la réponse à cette question était l'apôtre Pierre. Nous avons posé la question à Pierre, comment un homme peut-il être agréable à Dieu? Et Pierre nous avait répondu dans ce sens que pour être agréable à Dieu, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Non seulement qu'il faut marcher dans la crainte de Dieu, mais il faut aussi pratiquer la justice. C'est celui qui craint Dieu et qui pratique la justice qui peut alors être agréable à Dieu. Non seulement que Pierre nous a fixé sur cette question en relevant ces deux éléments très importants, mais nous sommes allés également interroger l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Lui également, il nous a fourni sa réponse que nous venons de lire tout à l'heure là. Comment un homme peut-il être agréable à Dieu? L'auteur de l'Épître aux Hébreux a répondu en disant, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, La foi est l'élément incontournable pour qu'un homme soit agréable à Dieu. Et même les deux autres éléments cités par Pierre ne peuvent pas intervenir si la foi ne précède pas. Vous ne pouvez pas marcher dans la crainte de Dieu sans la foi. Et vous ne pouvez pas pratiquer la justice si vous n'avez pas la foi. Il n'y a que la foi qui soit capable de rendre un homme agréable à Dieu. Et nous avons essayé de définir la foi, puisqu'il nous parle de la foi comme un élément indispensable et même principal pour qu'un homme soit agréable à Dieu. Qu'est-ce que la foi? Nous avons fait recours également à ce même auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, le verset 1er, où il a défini la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, selon Louis II, il dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais nous avons remarqué que le mot grec qui a été traduit par une ferme assurance, Louis II, c'est vrai, il a rendu comme il l'a fait, mais la version anglaise, King James, nous donne une bonne interprétation, une bonne traduction de ce mot, ce groupe de mots, une ferme assurance. Dans la version anglaise, là il est dit, now faith is the substance. Je m'arrête là. Il dit, maintenant, la foi est la substance. Lui, il n'est pas dans une ferme assurance, mais il dit que la foi est une substance. Or, lorsque nous parlons d'une substance, c'est quelque chose, c'est une matière à partir de laquelle peut se produire une chose. C'est ce qui est capable de produire quelque chose. En d'autres termes, dans sa pensée, lorsqu'il parle de la substance, il ne parlait pas de la foi comme quelque chose de vague. Il parle de la foi comme quelque chose de tangible. C'est pourquoi il dit que la foi est la substance. Et si nous devons remplacer une ferme assurance par la substance, la définition deviendra: or, la foi est la substance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la substance, c'est-à-dire la matière à partir de laquelle on peut obtenir des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est pourquoi il dit au verset 3, toujours au chapitre 11 d'Hébreux, il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le micro que je tiens est visible aujourd'hui, mais il n'a pas été fait de choses visibles. Il a été fait de choses invisibles. La chair devant laquelle je me tiens, n'a pas été fait de choses que vous voyez. Vous voyez la chair, mais cette chair a été faite de choses invisibles. C'est pourquoi il dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, Dieu n'a pas créé seulement des choses visibles, mais il a aussi créé des choses invisibles. Pour l'auteur à l'Épître aux Hébreux, ce sont les choses invisibles qui engendrent le visible. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, qui donnent naissance aux choses que l'on voit. C'est pourquoi il dit, c'est par la parole. C'est la parole qui a engendré le monde. La parole, on ne la voit pas, mais la parole a la capacité d'engendrer des choses touchables et visibles. C'est pourquoi Un vrai enfant de Dieu doit saisir ce qui est invisible plutôt que ce qui est visible. C'est pourquoi quelqu'un d'autre a dit, la foi, c'est dire ce qu'on croit et non ce qu'on voit. Qu'est-ce que tu crois? Et c'est ce qui déterminera ce que tu dis de ta bouche. Un homme est dans les besoins d'avoir un champ des orangers. J'ai donné cet exemple l'autre fois. Il prie à Dieu et il dit, Seigneur, j'ai besoin d'un champ, d'une plantation des orangers. Dieu ne vient pas lui donner un champ des orangers. Dieu lui donne la substance des orangers. C'est-à-dire, il lui donne les graines. Et quand cette personne, il peut prendre ses graines, il peut les mettre dans un papier. Il peut les mettre dans une enveloppe kaki. Et il va avec. Il sème dans la terre. Et à son retour, les gens, peut-être deux semaines après, on peut lui poser la question, mais tu vas souvent à Loufou. Qu'est-ce que tu pars faire là-bas? Il dira quoi? J'ai une plantation des orangers là-bas. Et quand ces gens viennent pour vérifier la plantation, ils trouvent une terre sans rien. Mais lui qui a planté, il sait. Il y a quelque chose qui est caché dans cette terre ici. C'est invisible pour le moment. C'est-à-dire, pour que les orangers soient visibles, ce n'est qu'une question de temps. C'est pourquoi, frère, c'est pour ce que tu attends là. Ce n'est qu'une question de temps. Pour la promesse de Dieu, en cette année 2025, ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que ça sortira à la fin du mois de janvier. Peut-être ça attendra jusqu'au mois de juin. Peut-être ça sera au début du mois de décembre. Mais sois sûr que ce qui existe, ce que tu ne vois pas encore, existe déjà quelque part. Ce n'est qu'une question de temps. La parole de Dieu est la substance des choses qu'on voit. C'est la parole de Dieu qui donne naissance aux choses visibles. C'est pourquoi Pierre, dans Luc chapitre 5, verset 4 au verset 6, Pierre, Jésus arrive devant Pierre et il demande la barque de Pierre. Il dit à Pierre, donne-moi ta barque, je vais prêcher. Pierre a pêché toute la nuit, il est découragé et il cède quand même sa barque à Jésus. Jésus prend la barque de Pierre, il enseigne. Quand Jésus finit, Jésus connaît les besoins de Pierre. Les besoins de Pierre, ce sont les poissons. Peut-être qu'il a laissé des dettes au quartier. Peut-être qu'il a dit à sa femme, bon, prends d'abord, je viendrai avec les poissons, on va vendre et puis je vais payer. Peut-être qu'à l'école des enfants, on attend le Minerval. Il sait qu'il part à son travail, il reviendra avec les poissons qu'il vendra et puis il va payer le Minerval des enfants. Jésus finit de pêcher. Mais Jésus ne donne pas de poissons à Pierre. Jésus donne à Pierre la substance des poissons. C'est pourquoi il dit à Pierre, après avoir pré-pêché, il dit à Pierre, alors allez, approchez, allez dans les eaux profondes et faites quoi? Jetez vos filets. La Bible dit, Pierre dit à Jésus, Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, c'est-à-dire mais sur la substance. J'ai saisi la substance et lorsqu'il jette le filet, ce sont les poissons qui viennent. Ce matin, saisis la parole de Dieu. Ne saisis pas de soucis, ne saisis pas de remords, ne saisis pas de déceptions, ne saisis pas de regrets. Saisis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Marche en fonction de ce que Dieu t'a dit. N'abandonne pas la parole que tu as entendue. Toute la concentration du plan de Dieu se trouve dans cette déclaration que Dieu t'a faite. Je jetterai le filet et j'aurai les poissons tant attendus. C'est pourquoi nous avions dit que celui qui saisit la parole de Jésus est capable de saisir les poissons qui lui ont échappé toute la nuit. Celui qui saisit la parole de Jésus est capable de saisir les poissons qui lui ont échappé toute la nuit. Qu'est-ce qui t'a échappé toute la nuit? Et qu'as-tu comme parole que tu peux saisir ce matin? Nous avions dit que la foi est aussi une substance qui s'accumule par la parole et qui se libère également par la parole. Une substance qui s'accumule par la parole et qui se libère aussi par la parole. Nous sommes là en Israël pour le contexte de Samuel. Anne, la maman de Samuel, ne donnait pas naissance. Elle était stérile telle que la Bible la présente. Et elle a fait longtemps dans cet état. Mais pour avoir Samuel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accumulé la parole. Elle connaissait son état, mais elle n'était pas la première à vivre ces conditions-là. Elle entend parler de Sarah, son aïeule. On lui dit, mais Sarah, tu es dans la même condition que toi. Mais voilà ce que Dieu a fait pour elle. Après plusieurs années de stérilité, finalement, il va recevoir son Isaac. Mais toi, tu n'as pas fait autant d'années que ça, que Sarah. Donc, tu peux toi aussi avoir des enfants. Anna Kimil. Elle dit, waouh, c'est formidable. C'est que moi aussi, je peux avoir des enfants. Quelques temps après, on lui parle de Rebecca. On dit, mais même Isaac, à son tour, quand il s'est marié avec Rebecca. Ils ont fait 20 ans de stérilité sans enfants. Mais Dieu les a visités. Il leur a donné des jumeaux. Ça veut dire que ce Dieu-là ne t'a pas oublié. Il peut te donner des enfants à n'importe quel moment. Elle a entendu encore qu'il y a Rachel, son aïeule, qui elle aussi n'enfantait pas. Et pourtant, sa rivale était là, Léa, qui avait déjà des enfants. Et même des concubines avaient aussi des enfants. Mais elle n'en avait pas. Mais lorsque son temps avait sonné, Dieu lui avait donné Joseph, le prince de tous ses peuples. Ça veut dire que même après la stérilité, tu peux avoir un enfant qui dépasse les autres. Anna Kimil. Elle dit, ça peut toujours marcher à n'importe quel moment. Plus loin encore, elle entend la femme de Manoa, la maman de Samson. Elle dit, elle aussi n'enfantait pas. Mais tu connais Samson. Samson était juge ici en Israël. Regardez l'histoire de Samson. Mais il est né de qui? D'une femme qui n'enfantait pas. Quand elle entend ça, l'accumulation était tellement forte, elle dit, cette fois-ci, quand je monterai à Silo, je vais libérer ce que j'ai accumulé pendant longtemps. Quand elle monte à Silo, alors qu'elle est dans le temple du Seigneur, elle peut dire, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai tous les jours de sa vie. Et quand elle libère cette parole, le ciel est en ébullition. Dieu dit, est-ce qu'elle dit vrai? Ok, essayons de perturber un peu la mémoire d'Élie. On trouble un peu la mémoire d'Élie. Élie vient, il regarde Anne, tu es ivre, fais passer ton vin. Anne réplique pour dire, ce n'est pas le moment de perdre ce que j'ai accumulé pendant longtemps. Il dit, non mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre comme tu le penses. C'est l'accumulation de ma douleur. C'est l'accumulation de la parole que j'ai fait depuis toutes ces années qui me fait parler. Alors le Seigneur dit à Élie, alors libère. Libère ce que tu dois libérer. Et lui ouvre la bouche et dit à Anne, cette va en paix et que le Dieu d'Israël t'exauce, exauce la prière que tu lui as faite. Ce matin, frère, sœur, je suis en train de jeter la parole. C'est à toi de recevoir quand tu veux, comme tu veux. Si tu me regardes comme ça, c'est ton affaire. Nous sommes au début de l'année, c'est le moment d'accumuler ce qu'il faut accumuler et libérer ce qu'il faut libérer. Alors qu'elle va finalement sortir de la présence de la Bible dit, cette femme alla, mangea, et son visage ne fut plus le même. La substance peut déjà te faire sourire. Tu n'es pas obligé d'attendre d'abord que Samuel arrive pour sourire. La substance a suffi pour que cette femme sourie. Et puis quand elle va, la Bible dit, dans le cours de l'année, elle devint enceinte, et elle enfanta son fils Samuel. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Ce matin, voyons ou entamons l'analyse de la foi de Samuel. Après avoir défini la foi, entamons ce matin l'analyse de la foi de Samuel. Lisons pour cela dans Hébreux chapitre 11. Du verset 32 au verset 34. Hébreux chapitre 11, du verset 32 au verset 34. La Bible dit, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. C'est dans ce texte qu'on nous parle de la foi de Samuel. Alors, notez ceci. Ce passage montre, parce qu'il n'est pas dit, il n'est pas seulement fait mention de Samuel. On parle de Gédéon, on parle de Barak, on parle de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel lui-même, mais aussi on parle des prophètes au pluriel. Alors, notez, ce passage montre que la foi authentique n'est pas l'affaire d'une seule génération des hommes. La foi authentique n'est pas l'affaire d'une seule génération des hommes ou d'une catégorie de personnes. La foi authentique n'est pas une affaire qui concerne un type de personnes. La foi authentique ne concerne pas une génération de personnes. Gédéon n'est pas de la même génération que Barak. Barak n'est pas de la même génération que Samson. Samson n'est pas de la même génération que David. David n'est pas de la même génération que Samuel. Et que dire de tous ces prophètes dont on n'a pas cité le nom? L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit que dirais-je parce que le temps me manquerait pour vous parler de toutes ces personnes. En d'autres termes, il veut simplement nous dire que chaque individu dans sa génération peut expérimenter la foi et laisser une histoire derrière lui. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui diront que nous sommes de la génération de la foi et les autres ne sont pas de la génération où Dieu peut susciter la foi chez les humains. Chaque génération est appelée à démontrer la foi de Dieu. De la même manière que David dans sa génération a démontré la foi de Dieu, en 2025 le monde peut découvrir ce que Dieu est capable de faire par ta foi. Ils ont été les faits par la foi. Ils ont fermé la gueule de lion par la foi. Ils ont été guéris de leur maladie par la foi. Ce qui veut dire en cette année, si toi aussi tu t'alignes à la foi de ces héros, on parlera de toi. La foi n'est pas une affaire d'une seule génération de personnes ou d'une catégorie d'hommes. Car dans chaque génération, la foi n'a manqué de transformer des vies. La foi n'a manqué de transformer des situations, permettant aux hommes de réaliser des exploits, de vaincre des adversités et de vivre des miracles. Dans chaque génération, la foi n'a manqué de transformer des vies. La foi n'a manqué de transformer des situations. La foi n'a manqué de faire des exploits avec les hommes. La foi n'a manqué de faire des miracles avec les hommes. La foi n'a manqué de vaincre des adversités. Ils n'avaient pas des armes entre leurs mains. Ils n'avaient pas, c'est pas une certaine formation militaire ou quoi, dans un domaine ou un autre. Mais la seule chose qu'ils avaient, c'est leur foi. Ça veut dire en d'autres termes, ils sont cités ici dans ce boulevard des héros de la foi à cause d'une seule chose, la foi. Ils ont été repris dans ce livre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a parlé de ces hommes, pas parce qu'ils avaient des choses, mais c'est parce qu'ils avaient uniquement la foi. Tu n'as pas besoin des armes pour impacter ta génération. Tu n'as pas besoin de grands diplômes pour influencer le monde autour de toi. Ce dont tu as besoin, c'est la foi en Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est la foi authentique. Ce dont tu as besoin, ce ne sont pas des discours en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce dont tu as besoin, c'est que tu accèdes à la foi authentique. Cette foi qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Cette foi qui transforme des réalités dans des vies. C'est cette foi dont tu as besoin. Le monde n'aura que faire de tes diplômes. Le monde n'aura que faire de tes comptes en banque. Le monde cherche des hommes de foi. Dieu cherche des hommes de foi. Ce sont ces hommes qu'il va lancer sur le terrain afin d'impacter, afin d'influencer, afin de montrer à tout le monde sa puissance sur la terre. Soyons des hommes de foi. pas une foi intellectuelle, pas une foi qui passe par les raisonnements, mais une foi qui démontre la puissance de Dieu, une foi qui passe par la force de Dieu. Les figures emblématiques à travers le monde ne sortent pas toutes de Harvard ou de Sorbonne. L'école de la foi produit aussi ses diplômés. Les figures emblématiques dans le monde ne sont pas tous les ressortissants de Harvard ou de Sorbonne. Il y a également l'école de la foi. L'école de la foi également sort ses diplômés. Ça veut dire que dans la même entreprise, les gens ont introduit des CV, personnes à vie et tout ça, tout ça. Mais dans l'accomplissement des tâches, c'est là qu'on ne sait pas voir qui est de Sorbonne et qui est de l'école de la foi. Ceux qui sont de Sorbonne, ils ne comprennent pas que celui qui est de l'école de la foi peut même le dépasser dans le raisonnement. C'est pourquoi des gens comme de Daniel, quand ils arrivent à Babylone, ils disent, ne me donnez plus la viande et tout ça, donnez-moi seulement les légumes. Pendant 10 jours, je vais prier et vous-même, vous allez voir si je serai maigre ou si je serai en bonne santé. Il a pris 10 jours de jeûne et prière et Dieu a doublé le cerveau, lui a donné le cerveau de 10 niveaux d'étage. Ils sont dans un même pays, mais les ressortissants de Sorbonne, les ressortissants, c'est pas de quoi là, Sorbonne c'est très loin, les ressortissants de l'ISIPA, de l'ISC, ils ne savent pas comprendre que l'école de la foi a aussi ses diplômés. Es-tu un diplômé de l'école de la foi? Je te donne ce conseil, va aussi t'inscrire dans cette école. Ne cherche pas seulement à avoir le diplôme, c'est pas un ingénieur en voyage spatial, ingénieur en vérification de la Terre et tout ça, géologue et tout ça, c'est bien toutes ces choses. Mais tu as aussi besoin de t'inscrire à l'école de la foi. C'est cette école-là que le monde ne comprend pas. C'est cette école qui déplace les montagnes. C'est cette école qui étonne le monde autour de nous. Pourquoi? Parce que l'école de foi nous fait faire des choses extraordinaires alors que nous ne sommes que des hommes ordinaires. Le corps de la foi te fera faire des choses extraordinaires alors que tu n'es qu'un homme ordinaire. Ainsi, la foi de Samuel a beaucoup de choses à nous apprendre. Notamment, elle nous apprend sur le fondement de la foi de Samuel. Et deuxièmement, elle nous apprend sur la foi de Samuel comme moteur de son action. Le fondement de la foi de Samuel, elle nous apprend aussi sur la foi de Samuel comme moteur de son action. Et enfin, elle nous apprend sur l'impact de la foi de Samuel pour les générations futures. La foi de Samuel a beaucoup à nous apprendre, notamment sur les fondements de la foi de Samuel. Deuxièmement, la foi de Samuel comme moteur de son action. Et troisièmement, l'impact de la foi de Samuel pour les générations futures. Vous avez ça sur le tableau, vous pouvez noter. Entamons ce matin l'analyse du fondement de la foi de Samuel. Le fondement de la foi de Samuel. Qu'est-ce que nous pouvons entendre par un fondement? J'ai pris cette définition simple qui dit que le terme fondement désigne la base ou le support sur lequel repose quelque chose. Le terme fondement désigne la base, sinon le support sur lequel repose quelque chose. On peut parler du fondement d'un concept. On peut parler du fondement d'une théorie. On peut parler du fondement d'une construction. On peut parler du fondement d'une institution. Donc, on parle de la base de quelque chose. C'est sur quoi repose quelque chose. C'est ça le fondement. Et en architecture, lorsqu'on parle du fondement, le fondement désigne la partie inférieure d'un bâtiment qui assure sa stabilité et sa solidité. Et c'est très important que nous comprenions ces choses parce que nous sommes au début d'une nouvelle année. En architecture, les fondements désignent la partie inférieure d'un bâtiment qui assure sa stabilité, sinon sa solidité. Ainsi, parler du fondement de la foi de Samuel, c'est chercher à découvrir la base ou le support spirituel sur lequel reposait sa foi tant vantée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux vante la foi de Samuel. Il dit, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler. Il cite parmi ces héros de la foi, il cite également Samuel. Et il donne en bloc les exploits que tous ces héros de la foi ont accomplis. Et particulièrement, si je dois parler, je dois prendre parmi ces exploits ce que je peux rapprocher avec Samuel. C'est le dernier exploit. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de la mise en fuite des armées étrangères, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 7, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, Israël est en train de trembler devant les Philistins. Ils se réunissent à Gilgal et tout le peuple vient voir Samuel pour dire « Ne cesse point de crier pour nous, afin que l'Éternel nous délivre de ces Philistins. » Les Philistins qui déjà dominaient sur Israël, parce que déjà au chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, ils ont pris l'arche. Et ils l'ont amené chez eux dans leur camp. Israël est dominé. Et les enfants d'Israël viennent voir Samuel pour dire, ne cesse point de crier pour nous. Samuel va offrir un animal en holocauste ce jour-là. Et il va prier. La Bible dit, il prie à l'Éternel et l'Éternel l'exauça. Qu'est-ce qui va se passer après? Et la Bible dit, l'Éternel fit entendre du ciel des tonnerres. Et il mit en déroute les armées des Philistins. Ils n'avaient pas des armes. Ils n'avaient que la foi. Ils n'avaient que cette substance au-dedans de lui. Et cette substance a bougé le ciel. Et a eu des tonnerres. Et les armées étrangères ont été mises en fuite. Mais quel est le fondement de cette foi? Parce que lorsque nous lisons ces choses, nous prions et nous disons à Dieu, donne-moi la foi de Samuel. Donne-moi d'opérer comme Samuel. Donne-moi de fonctionner dans la dimension de Samuel. Mais la foi de Samuel a un fondement. La foi de Samuel a un parcours. La foi de David a un parcours. La foi de Barak a un parcours. Si nous voulons imiter la construction d'une maison, n'imitons pas seulement le toit. Commençons par la fondation. Nous apprécions les belles constructions. Nous aimons ce que les autres ont fait. Mais découvrons aussi ce qu'ils ont eu comme fondement. Le problème à l'église aujourd'hui, c'est que nous nous sommes écartés du fondement de notre foi, de la foi chrétienne, du christianisme. Nous sommes dans autre chose, j'en parlerai. Je ne vais pas anticiper. Parler du fondement de la foi de Samuel, c'est chercher à découvrir la base ou le support spirituel sur lequel reposait sa foi tant vantée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Rappelons-nous que l'histoire de Samuel nous enseigne sur comment un homme consacré à Dieu peut briller. Cette histoire nous enseigne sur comment un homme consacré à Dieu peut briller sur la terre. Or, quand nous lisons 1 Jean chapitre 5, le verset 4e, la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire que c'est possible que tu triomphes de ce monde. Mais la seule possibilité pour nous de triompher de ce monde, c'est la foi. Il est né dans une période de trouble en Israël. Les juges, le dernier chapitre, le dernier verset présente cette période de juges comme une période où il n'y avait pas de roi en Israël et que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était la période de l'anarchie totale, exactement comme notre pays aussi, où chacun peut faire ce que bon lui semble, où chacun peut changer de direction de conduite comme il veut. Il roulait normalement. Mais au milieu de la route, il s'est dit, moumé baye moun à direction yaï. Moumé baga direction yaï. Sens contraire. Et puis vous entendez le gyrophare. Poli, poli, poli. L'anarchie totale. Mais comment triompher d'un tel monde sans la foi? Comment Samuel devait-il triompher de son monde, à son époque, s'il n'avait pas la foi? Donc la foi est incontournable si nous voulons changer notre société. Si nous voulons changer notre monde, Dieu a besoin des hommes de foi. Dieu a besoin des femmes de foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, tu ne peux pas triompher de ce monde sans la foi. Mais la foi qui triomphe du monde a un fondement. Cette foi-là n'est pas vague. Cette foi-là n'est pas assise sur les discours des hommes. Mais cette foi a son fondement. Hébreux chapitre 13, verset 7. Nous avons ce conseil de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 7, qui dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez quoi? Leur foi. » Mais la foi qu'on doit imiter, à quel fondement? Si demain après demain, les autres doivent imiter notre foi, nous devons travailler aujourd'hui sur le fondement de cette foi. Parce qu'on ne peut qu'imiter ce qui est solide. On ne peut qu'imiter ce qui a de la stabilité. Pas ce qui vacille. Pas ce qui va à gauche et à droite et qui n'a pas de repères. On ne peut qu'imiter ce qui est constant. On ne peut qu'imiter ce qui est stable. Et c'est cela le problème que nous avons aujourd'hui. Quel a été le fondement de la foi de Samuel pour que nous l'imitions? Lisez ensemble avec moi dans 1 Samuel chapitre 1, du verset 22 au verset 25. 1 Samuel chapitre 1er, du 22e verset au 25e verset. 1 Samuel chapitre combien? 1, du verset 22 au verset 25. Est-ce que vous êtes là? Sinon, si vous vous ennuyez, alors vous dites, bon, tu nous ennuies. 1 Samuel chapitre 1er du verset 22 au verset 25. Sinon la bonne année est en train de continuer. Nous sommes déjà les 5. Il faut tourner la page de la bonne année. Même si tu n'as pas mangé comme tu voulais, tourne la page. Reviens ici, sois au culte. Amen. C'est comme si je me parlais moi-même, on dirait. Il faut vivre, hein? Le prédicateur a besoin d'une interaction, s'il vous plaît. Ne me laissez pas seul, c'est comme si je parle dans le vide. Ce n'est plus le temps où nous prêchons là-bas à la télévision, vous êtes à la maison. Là, vous êtes en présentiel. Lisons 1 Samuel chapitre 1er, du verset 22 au verset 25. La Bible dit quoi? Là, nous sommes à l'étape où Anne a prié pour avoir son enfant. Et Dieu a entendu sa prière. Et nous sommes dans la deuxième phase de ce deal. La première phase, c'est que Dieu devait donner à Anne un enfant mâle. C'était ça la demande d'Anne. Si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai tous les jours de sa vie. Et la deuxième partie de ce deal, c'est quoi? C'est la consécration. Je le consacrerai tous les jours de sa vie. La Bible dit, alors que chaque année, il monte à Silo pour sacrifier Elkanah et toute la famille, ils montent ensemble. Mais ici, Anne ne monte pas. Elle donne la raison. La Bible dit, mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Verset 23. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera comment? Bon, attends de la voir sévrée. Veille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Verset 24. Quand elle l'eut sévré, suivez, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux. Quand vous lisez dans la version du Semeur, ce qui est traduit par 3 taureaux, c'est 1 taureau de 3 ans. Et prit 3 taureaux, un épha de farine, qui est l'équivalent de 10 kilos, c'est-à-dire 10 bicolo, 10 kilos de farine, et une outre de vin. Elle les mena dans la maison de l'Éternel ou à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Ils sont dans la deuxième phase du deal qu'ils ont fait, elle et l'Éternel. La dernière partie notée. La dernière partie de la déclaration selon laquelle, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. La dernière partie, c'est qu'il reste là pour toujours. Cette dernière partie de cette déclaration semble incompréhensible et même une folie aux yeux des hommes du temps de Anne. Cette dernière partie, que l'enfant reste là pour toujours. Nous avons toujours eu à bénir les enfants ici. Anne dit, lorsque l'enfant sera sévré, il n'y a pas de problème jusque là, je le mènerai. Les parents viennent avec les enfants ici sans problème. Afin qu'il soit présenté devant l'Éternel. Tout à l'heure, notre sœur a présenté l'enfant ici, oui ou non? Mais est-ce que cet enfant est resté ici? Bien que dans sa prière, elle a dit que l'enfant reste pour toujours dans la maison de Dieu. Mais il ne va pas rester physiquement. Mais pour Anne, l'enfant doit rester physiquement. Ce n'est pas qu'ils sont venus présenter et puis nous prenons l'enfant et puis on dit, Seigneur, prends cet enfant. Prends-le en charge, qu'il grandisse et tout ça en connaissant de ta parole. Et puis, on dit à la maman, rentre. Donc, comme ce matin-là, les parents sont là, et puis on présente l'enfant, et puis on dit aux parents, Bozong alabino, Nzambaz alabino. Et puis ils sont entrés, s'ils habitent sur quatre, les voilà qui repartent aussi, accompagnés des gens. Où est l'enfant? Totike na silo. Et puis ils partent librement. Cette dernière partie semble être incompréhensible. Et même une folie aux yeux des hommes du temps de Anne. Pour eux, c'est-à-dire pour ces hommes, laisser son enfant dans un environnement caractérisé par la dégradation morale et spirituelle et irréfléchie de la part de Anne. C'est vrai, tu peux laisser l'enfant, mais tu vas le laisser dans quel environnement? Là où il y a le fils d'Élie dont on entend parler du comportement bizarre, c'est là que tu vas laisser ton enfant. Les gens autour de Anne l'ont condamné, l'ont critiqué pour dire, non, c'est irréfléchi ce que tu fais. C'est irresponsable de laisser ton enfant dans un tel environnement. Mais notez ceci. Toutefois, ils peuvent parler, ils ont parlé ce qu'ils ont dit. Mais toutefois, nous devons savoir que les actes posés par un homme ou une femme de foi, ainsi que les résultats qui s'en suivent, dépendent de qui il a rencontré, de qui il a entendu. Les actes posés par un homme de foi peuvent être critiqués. Les actes posés par une femme de foi peuvent être analysés dans tous les sens. Les problèmes, ce ne sont pas les analyses des hommes. Les problèmes, c'est que les actes qu'ils posent, les actes que je pose, je les pose après avoir rencontré qui? Et qu'est-ce que j'ai entendu? Certainement Anne était aussi bouleversée. J'ai demandé l'enfant, l'enfant est venu. J'ai fait le deal avec Dieu, Dieu a honoré sa parole. Il reste maintenant mon tour, à mon tour d'honorer également mon engagement. Je dois donner mon enfant, je dois aller le déposer à Silo. Mais je connais aussi ce qui se passe à Silo. Comment l'enfant va-t-il vivre là-bas à Silo? C'est à ce moment-là, finalement, alors qu'elle est dans ses troubles, que finalement Dieu vient intervenir pour lui dire, voilà, tu vas déposer cet enfant. Mais avant que tu déposes l'enfant, tu vas le faire accompagner d'un taureau de 3 ans. Tu vas associer à cet taureau un éphah de farine et une outre de vin. C'est pourquoi lorsque Anne va avec l'enfant à Silo, les autres gens du quartier lui posent la question. On est d'accord que tu amènes l'enfant. Est-ce que tu lui as trouvé une nounou? Anne dit, je n'ai pas de nounou, je n'ai que le taureau. Est-ce que tu as trouvé un compte à banque? Anne dit, je n'ai pas de compte que j'ai ouvert, je n'ai que le taureau. C'est ce taureau qui sera sacrifié. Une fois que le taureau sacrifié, l'avenir de Samuel est assuré. Une fois que le taureau sera sacrifié, mon enfant vivra, mon enfant ne mourra pas. C'est cela la base, le fondement même de la foi de Samuel. Il est entré à Silo par un taureau qui a été sacrifié. Le taureau sacrifié assurait la sécurité de Samuel. Le taureau sacrifié assurait les études de Samuel. Le taureau sacrifié assurait la paix de Samuel. Le taureau sacrifié assurait toute la vie de Samuel. Il n'y avait pas autre chose. Il a rencontré l'Éternel en secret. Mais les actes qu'il pose en public lui font passer pour un insensé. Frères, sœurs, j'aimerais ici, alors que nous sommes au début de cette année, je dois terminer, nous devons savoir, frères, sœurs, qu'alors que nous sommes en ce début d'année, il n'y a que celui qui a mangé l'agneau pascal au premier mois de l'année qui pourra leur demander la grâce sur le chemin. Si tu n'as pas été en contact avec la croix, la grâce ne te servira absolument de rien. Il n'y a que la croix qui est capable de te donner l'accès à la grâce de Dieu. Cette année, frère, sœur, reviens à la base, reviens au fondement. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. Le christianisme que nous avons aujourd'hui est malade. Le christianisme que nous avons aujourd'hui n'a plus pour fondement la croix de Golgotha. Frère, sœur, c'est celle la croix qui nous a donné la liberté que nous avons aujourd'hui, sans la croix qui se serait assise ici, sans la croix qui relèverait la tête aujourd'hui. Si je prêche ce matin, c'est parce que quelqu'un a versé son sang là sur la croix. Il a assuré mon avenir. Le taureau a assuré l'avenir de Samuel. Mais pour moi, la Bible déclare dans Hébreux 9, Jésus-Christ n'est pas entré dans le sanctuaire avec le sang de bouc. Il n'est pas entré avec le sang de taureau, mais il est entré avec son propre sang. C'est là qu'il a tout payé. C'est là qu'il a tout accompli pour moi. Il a vécu sur cette terre. Il a déclaré lui-même à tout moment que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Mais là sur la croix, on le voit pendu. Et après avoir souffert, il peut crier « Tétélestai ». Et c'est là qu'il va pencher sa tête pour dire « C'est ici mon lieu de repos. C'est là le but pour lequel je suis venu dans ce monde. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ramène la croix au centre. Ramène la croix au centre de ta vie. Il n'y a pas meilleure chose pour toi que la croix de Golgotha. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour toi sur la croix de Golgotha? Nous sommes aujourd'hui éparpillés sur beaucoup de choses à la fois. Ceux qui prêchent, ils ne prêchent plus la croix. Ils prêchent les expériences personnelles. Ils prêchent le développement personnel. Ils prêchent la morale. Ils prêchent la chasse des démons. Il y a même quelqu'un qui se donne le nom, je suis le chasseur des démons. Mes frères, sœurs, qu'est-ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha? On prêche les liens le matin, on prêche les liens le soir, on prêche les hôtels de famille le matin, on prêche les liens de famille à droite. Frères, sœurs, si vous connaissiez ce que la croix a fait, la croix a tout accompli pour nous. Jésus n'est pas venu pour guérir les malades d'abord. Jésus est venu pour nous sauver. Jésus n'est pas venu d'abord pour faire de nous des riches. Jésus est venu d'abord pour que nous ayons la vie éternelle. Où est la croix dans notre monde aujourd'hui? Les églises sont pleines, les églises sont remplies, mais la corruption bat toujours son plein. Les gens vont dans les églises et même ceux qui corrompent, ils sont des membres des églises et même ils sont des serviteurs dans les églises. Mais où est la croix dans le cœur? La croix a disparu. Les gens sont superficiels. La croix n'a plus de place dans le cœur. On est là pour juste que l'autre nous voie, qu'on s'affiche devant les hommes. Où as-tu mis la croix de Jésus? Il n'y a pas de grâce à demander en cours de chemin si tu n'as pas mangé l'agneau au premier mois de l'année. Lisez Exode 12. Dieu dit, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Vous mangerez l'agneau. Celui qui mange l'agneau au début du mois, il peut demander la grâce en chemin. Tu vas demander la grâce tout au long de l'année. As-tu mangé l'agneau? As-tu mangé l'agneau? Quelle place donnes-tu à l'agneau de Dieu aujourd'hui? Nos prédications sont ailleurs. Nos chants sont ailleurs. À peine converti, on commence déjà à demander les choses à Dieu. Quand est-ce que tu vas élever la croix de Golgotha? Quand est-ce que tu vas élever le sacrifice de Jésus? Quand est-ce que tu vas adorer ce Jésus pour le sang qu'il a versé pour toi? Mais tu es dans autre chose. Tu es dans autre chose. Je vais terminer. J'ai sauté beaucoup de choses, je n'ai pas le choix. Galates 6, le verset 14. L'apôtre Paul dit ceci. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. La question que j'aimerais nous poser ce matin, quand tu dis que tu es chrétien, qu'est-ce qui fait ta fierté? Ce sont les maisons que tu as construites? Ce sont les comptes en banque que tu as, que tu possèdes aujourd'hui? Frères et sœurs, nous devons plus honorer Jésus pour ce qu'il a fait pour nous et non pour ce qu'il a fait de nous. Ce qu'il a fait pour nous est plus important que ce qu'il a fait de nous. C'est à la croix qu'il a pris ma place. C'est à la croix qu'il s'est donné. Frères et sœurs, as-tu déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que la croix occupe le centre de ta vie? Tu es là. Pendant longtemps, tu as fait longtemps à l'église. Est-ce que la croix est toujours le centre de ta foi? Courbons nos têtes à la prière. Il y a des décisions à prendre ce matin. Rapidement, j'aimerais demander à tous ceux qui ont été touchés par la parole de bien vouloir s'élever. Nous allons prier, nous n'avons pas assez de temps. S'il vous plaît, ne perdez pas le temps. Si la croix n'est pas le centre de ta vie, lève-toi. Et si tu l'as déjà écarté loin de ta vie, ce matin, prends la décision de ramener la croix au centre de ta vie. Tu peux avoir une renommée, mais Paul dit, je ne me glorifie pas d'autre chose que de la croix de Golgotha. Je ne me glorifie pas d'autre chose que de la croix. Oh Seigneur, vous êtes nombreux à vous élever, continuez à vous lever. Et même vous nous suivez au loin à la maison, levez-vous partout où vous êtes. Seigneur, prends ces hommes et les femmes. Il n'y a pas de grâce à demander en cours de chemin si l'agneau n'a pas été mangé au début du mois, au début de l'année, au premier mois de l'année. Seigneur, nous venons ce matin au Dieu parce que nous ne voulons pas, alors que la grâce est disponible, nous ne voulons qu'il n'y ait aucun obstacle à cette grâce. Qu'il n'y ait aucun obstacle qui nous empêche d'accéder à cette grâce. Pardonne ceux qui ont besoin d'être pardonnés, Seigneur. Pardonne à ceux qui ont besoin d'être lavés. Pardonnez, dans, Seigneur, et lave-les par ton sang. Accepte-les comme tes enfants, Seigneur. Lève-nous ensemble, s'il vous plaît. Et élevons l'œuvre de Golgotha. Élevons Jésus-Christ crucifié, là sur la croix du calvaire. Adorons les rois glorieux, les rois serviteurs qui s'est livré lui-même pour nous. Élève-les, élève-les, élève-les. Célèbre-les, célèbre-les. Il a payé de son sang pour nous. Il nous a purifiés. Il a fait de nous un peuple pour sa gloire. Oh Jésus, merci. Merci pour le sang versé. Merci pour la croix. Merci pour la vie. Tu l'as fait, Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous aimes. Seigneur, prends ton église. Ramène-nous au centre de la foi chrétienne. Nous ne voulons pas nous disperser sur bien d'autres choses. Mais nous voulons que la croix soit le centre de notre vie. Reprenez vos places. Seigneur, bénis à cette heure ces dîmes, ces offrandes, ces dons volontaires et tout ce que nous t'apportons. Sanctifie-les au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.